Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Tom Villa et Nora Hamzaoui. Aujourd'hui, Stéphane De Groot, Simon Abkarian, la bande originale de Sarah Forestier, Vincent Elbaz et en live, Julien Doré et Patrice. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
Simon va nous laisser maintenant.
Le colonel Amanoula et Michel Colincourt, c'est ça
oui,
votre...
Oui, on peut le dire en une fois, Colincourt. C'est pas Colincourt,
c'est Colincourt. Je cherchais. J'hésitais entre Colincourt. J'hésitais entre Colincourt comme la rue ou Coulincourt, je me souvenais plus exactement.
Colincourt, c'est Colincourt. Michel comme... Colincourt, enchanté.
Très bien, c'est un nom de rue, quoi.
Très bien. Soyez bienvenus, écoutez, puisque vous êtes désagréable, on va continuer. J'espère que vous avez bien compris, Tom Villa, malgré le nombre d'erreurs que vous commettez tous les jours. Oui. Avez-vous compris pourquoi Simon et Stéphane sont nos invités?
Bah pour la diversité, voilà. Nos invités de ce matin sont belges et arméniens. Ils jouent dans une série qui se passe en Afghanistan, mais tournée au Maroc. Bref, c'est la plus française de nos séries. Bonjour Simon.
Bonjour
Stéphane. Alors, bonjour. Kabul Kitchen, qui n'a rien à voir avec un quelconque top chef afghan, hein, dans le pitch. Au départ, Kabul Kitchen, c'est l'histoire de Jackie, joué par Gilbert Melki, qui décidait d'ouvrir un resto-piscine pour expatriés en Afghanistan. Voilà, sur l'échelle des bonnes idées, on est à peu près au même niveau que d'ouvrir un bar à l'Alguen dans la Trump Tower. Voilà, ça peut pas la même ambiance, voilà. Mais pourquoi pas? Disons qu'en termes de concurrence, c'était plutôt tranquille. Par contre, en termes d'emmerde, c'est buffet à volonté, hein. Et pour l'aider à tenir ce bordel, Jackie croisait sur sa route le général Amanoula. Donc vous, Simon, avec qui il allait plus ou moins s'associer. Le problème, c'est que s'associer avec le général Amanoula peut s'avérer aussi fructueux que de s'associer avec Christophe Rocancourt. Tu sais avec ce que t'arrives, mais tu sais pas avec quoi tu repars. Ça, c'est le petit souci. Et puis pour cette saison 3, exit Jackie et bienvenue à vous, Stéphane De Groot, un escroc mondain qui se prénomme Michel, poursuivi par des mafieux russes et qui débarque au Kabul Kitchen. Donc le personnage de Michel remplace celui de Jackie. Jackie et Michel. Vous foutez de la gueule de qui? Non, on en parle deux secondes ou pas?
Tu vois ce que c'est ou pas?
Quoi?
Bien sûr qu'il sait. Donc voilà, on espère juste que la référence s'arrête là et qu'on va pas être obligé de rebaptiser la série Maboul Kitchen ou Backroom Kitchen, hein, mais. Non, mais.
Michel, je l'ai pas vu venir celle-là. Et je crois que Stéphane non plus.
Mais c'est Simon. Non mais c'est sérieusement Simon. Tu vois ce que c'est ou pas, Jackie et Michel?
Oui, bien sûr. Là, je vois pas.
Non mais c'est pour ça. Je dis ça sérieusement.
C'est un site pornographique.
Voilà. Oh putain.
Ah oui, c'est pour ça. Pour une fois, je me fous peut-être pas de ta gueule. C'était pour t'aider.
En tout cas, Simon, vous faites super bien l'étonnement.
Je suis très très étonné là. Un acteur doit toujours être étonné.
Ça passe. Bravo. Et vous aviez lu le scénario ou pas du tout?
Non.
Tu vois ce que c'est, un site pornographique ou pas?
C'est pornographique, oui.
C'est quoi, hein?
Bon, en tout cas, voilà, Simon, Stéphane, on est très heureux de vous recevoir pour donc Kabul Kitchen. C'est LA série comique française. Oui, parce que Plus belle la vie, ça compte pas, ils sont pas au courant que c'est une comédie. Mais ça fait du bien de voir qu'on peut être aussi drôle que les Américains, même si on s'inspire d'eux, forcément. Bah, c'est vrai que Kabul Kitchen, il y a un petit côté Homeland, hein, mais en drôle, pas parano et pas raciste. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez Jackie et Michel, et vous marrez en français, bah, la saison 3 de Kabul Kitchen est fait pour vous.
J'aime Kabul Kitchen.
Bravo.
France Inter, la bande originale, le best-of. Avec Nagui.
Le retour, oui, c'est quand même un événement. Ça s'appelle comme ça. Il y a pas de, et c'est un événement qui est à la hauteur de la qualité pour avoir eu la chance de voir les
deux saisons précédentes.
Non, moi j'ai eu la chance de voir les quatre premiers épisodes de ce qui débarque là.
Oui, moi aussi. Ouais. Voilà. Quand tu connais la saison aussi, ouais. En général.
Voilà. Le niveau est d'enfer. Le rythme aussi, l'humour aussi. Kabul Kitchen revient sur Canal avec un nouveau personnage. Alors pardon Simon de d'abord parler à Stéphane.
Il faut d'abord parler de Stéphane.
Vous débarquez sans, paraît-il, avoir vu les précédents épisodes.
Oui. Alors moi je connaissais de la série de réputation. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas un grand consommateur de séries à la base.
D'accord.
Et puis, quand on m'a proposé de débarquer, de reprendre un rôle, de créer un rôle, doublement, j'ai pas voulu regarder la série parce que je voulais découvrir en fait les personnages et tous les rouages
frais,
de cette série.
En fait, être frais, être surpris.
Complètement arrivé vierge sur cette série et découvrir le rapport que j'allais entretenir avec le colonel, avec Stéphanie, Benjamin Belcourt et toute la bande. Et c'est vrai que ce personnage qui est un peu un personnage caméléon devient ce qu'il est au contact des uns et des autres. Et c'est ce que je voulais découvrir ça.
Et ben c'est réussi.
Merci. Ouais, ça marche, c'est drôle. Il y a toujours un rythme fou en termes de vannes. C'est important de le préciser. Stéphane, Simon, il faut préciser la présence de Stéphanie Pasterkamp parce que je trouve qu'on la cite pas beaucoup. Or, elle a pratiquement le rôle principal. Stéphanie, au milieu de vous, au milieu des mâles que vous représentez. On est d'accord.
Oui, elle a un très beau rôle. Ouais.
Elle est juste, elle joue bien et elle porte sur ses épaules finalement l'ambiguïté d'être coincée entre des voyous. Ouais, il n'y a pas d'autre terme. Vous incarnez bien, Simon. Vous le portez bien, même avec dans les billets. Je trouve que, je sais pas, le côté dictateur, ça vous va bien. Vous avez quelqu'un pourtant d'extrêmement gentil au naturel.
Ouais, je crois, ouais. Non, je suis quelqu'un de gentil, ouais. Mais voilà, j'ai vécu au Liban, je suis arménien, donc des généraux comme ça, j'en ai croisé 2-3 fois dans ma vie, quoi, des officiers.
Donc vous êtes allé chercher sur des un peu de vrai.
Ouais, un peu d'imaginaire, un peu de vrai, et puis c'est surtout l'écriture, quoi, et la silhouette, la grosse casquette russe, ça fait la blague en contre-jour.
Les expressions du style de mémoire, c'était
viens que je t'accole,
oui.
C'est dans le scénario.
Ça, c'est dans le scénario, c'est pas vous, parce que ça
non,
vous va
ça,
tellement
c'est pas moi. Il y a d'autres choses qui sont de moi, mais
par exemple,
c'est pas
est-ce que vous faites des propositions? Est-ce que c'est possible encore dans des séries aussi millimétrées et bien écrites de faire des propositions quand on est en train de tourner?
Là, sur ce personnage, oui, il faut en faire. Je pense que j'ai un peu l'accord tacite des auteurs et de la chaîne et des producteurs pour que je puisse...
Le mien aussi, t'as eu. Temps,
et, le sien aussi. Non, mais c'est vrai, et le sien aussi, d'ailleurs, parce que de temps en temps, il me disait, ça, lui, c'est pas terrible. Du coup,
donc voilà. Vous mettez d'accord est-ce que telle vanne va bien, est-ce que ce rythme-là, ben ouais, ce jeu-là va bien.
Déjà, oui. La base, il faut dire que c'est très bien écrit, les personnages sont très bien dessinés, donc il n'y a pas grand-chose à réécrire. Ouais. Ce qu'on a réécrit, c'est notre rapport, comment on se découvrait tous les deux. Très vite, mais dès la séance photo de promo avant que la série ne démarre, on s'est dit, tiens, ça va bien se passer. Le courant a passé immédiatement entre nous. Tais-toi maintenant. Et
mais il le tape
tout le temps.
Mais il se fait mal aux mains.
Il se fait mal aux mains. C'est du granit arménien. Moi, je tape.
C'est du Bastorma.
Mais arrête.
Mais non, je commence.
Mais
tu vas voir.
Pas. Non, mais non, mais tu tapes trop fort.
Non, c'est rien.
Et non, viens. Viens que je t'accole.
Viens que je te raccole.
Et viens que je te recolle. Et non, et du coup, on a découvert le rapport qu'on pouvait avoir l'un avec l'autre, et on s'est aménagé des répliques, c'est vraiment le rapport entre le clown blanc et l'Auguste. On s'est trouvé une vraie complémentarité, et du coup, effectivement, on s'est approprié ces personnages et certaines répliques et certaines attitudes.
Alors, il y a le plaisir de jouer ensemble, et puis il y a l'histoire quand même que ça raconte, parce que il faut trouver toutes les 30 minutes des rebondissements et une envie de rester pour l'épisode suivant, parce que c'est aussi la malice. On veut toujours savoir ce qui va se passer ensuite.
Le principe de la série, quoi.
Alors, je ne sais pas. Ouais, non, le principe de la série avec toujours des l'écriture du coming next, quoi. De se dire, un épisode peut être bouclé tout seul, on peut l'avoir vu, et puis il y en a, je trouve, qui marchent mieux ou moins bien que d'autres en disant qu'est-ce qui va arriver ensuite au personnage. Alors, comme j'ai vu les 4 épisodes, je sais plus ce que je peux dire et ne pas dire de la série.
On peut commencer par la situation initiale. Le colonel est de retour. Après,
il sort de prison.
Il sort de prison, voilà. Donc, il a eu envie de se refaire une image plutôt positive, et il va tomber sur ce programme.
Il faut rappeler que il a été en prison parce oui. que
il a tué quelqu'un de la CIA,
ouais. Voilà. Ouais. Et que c'est un narcotrafiquant,
aussi. Voilà. Trafiquant d'armes, bien connu. Et là, il décide d'abandonner ce business pour se lancer dans un autre. Il cherche à briguer la présidence de la République.
Tu vas trop vite, non?
Bah non.
Non.
Ah bon?
Juste c'est le début. Et bah si. Et Michel.
J'ai regardé dans le désordre, Nagui.
Jamais commencé par l'épisode 3.
C'est son projet initial. Son projet initial, c'est de se refaire et d'avoir un rôle important, voilà, dans ce pays.
Coupable, c'est...
Et on le dit pas. Quant à vous, Michel, enfin Stéphane, vous arrivez un peu, non pas par hasard, mais vous avez un faux passeport et qui est au nom du père de
Jackie Robert.
Voilà, Jackie Robert. Jackie Michel et...
qui était, alors Jackie Robert, qui était incarné par Gilbert Melki, voilà. Qui est mort.
Qui est mort.
Sauf qu'on a bien vu dans la série qu'il n'était pas vraiment mort, puisqu'il était lui-même en train de regarder son, sa tombe. Et donc on s'attendait à ce qu'il revienne d'une manière ou d'une autre.
Ah, là, il est mort et remort.
Là, il est mort et remort. Bien, il est bien mort, et c'est vous qui débarquez avec un faux passeport, portant le nom de... Enfin, vous avez échangé vos passeports.
On a échangé nos passeports, moi je débarque dans cette aventure, on ne sait pas très bien qui est ce type. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui non plus.
Il a des petits soucis avec les Russes.
Il sait beaucoup de choses.
Oui, il sait beaucoup de choses, c'est un type plutôt malin.
Ouais.
Et ils se font dans ce team pour par opportunisme, par enfin effectivement je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire ou pas dire.
En tout cas, vous êtes lancé tout d'un coup dans un programme humanitaire qui consiste à remplacer le pavot par des roses, et c'est une excellente occasion pour le colonel de rencontrer la population et d'espérer ainsi attirer les électeurs à lui, en gros.
Mais ce que je trouve bien aussi, c'est que le rôle que fait merci.
Bienvenue.
Mon camarade Stéphane, c'est qu'il va très vite. Il s'invente selon chaque situation, selon les situations. Il rebondit, il improvise et il va super vite. Contrairement à l'autre qui est très très lent.
L'autre, c'est vous, hein?
Ah, c'est moi.
Oui, d'accord.
Mais je suis lent. Mais on sait très bien que la lenteur, c'est toujours elle qui gagne à la fin. Et que dans certains cas, ça peut être très très
bénéfique. Ça, c'était chez La Fontaine. Il faut faire attention. Aux Jeux Olympiques, ça marche moins bien.
Moi, je cours pas, moi. Enfin bon, voilà, c'est ça. Et ça, je trouvais ça génial. C'est de voir c'est comme le menteur de Goldoni. Le mec, il est toujours en train d'inventer des mensonges.
Il s'adapte.
Ça. Et il a mauvaise mémoire parce qu'il a menti. Et puis, il se dit, ah oui, j'ai dit ça. C'est super.
Et en même temps, c'est un ressort, évidemment, comique. Mais aussi, ça déclenche une nouvelle intrigue systématiquement parce qu'il n'a pas peur de dire des vérités. Dans un milieu où tout est fait d'arrangements, de secrets et de mensonges.
Mais moi, c'est ça que j'aime bien. C'est un truc très simple, c'est quand tu dis au petit Alexis, au jeune Alexis, que tu dis moi j'ai un pif, les escrocs, je les vois venir de loin. Et l'autre, tu lui dis, tu vois pas que ta femme est enceinte, et enfin, moi, c'est assez drôle.
T'as même pas le pif pour te rendre compte que ta femme est enceinte. Voilà. Alors que, il était au courant que Stéphanie était enceinte et qu'il ne fallait absolument pas le dire, mais il balance.
Il balance.
Sans filtre.
Il a pas beaucoup il est sans filtre. De toute façon, lui, là, il a juste un but, et pour l'atteindre, il traverse les montagnes, quoi.
On est à Kaboul, on est dans une situation politiquement tendue, dans des conditions sociales très particulières, avec des armes, avec de la drogue, avec des conflits d'intérêts. Cette toile de fond est très particulière, quand même, pour faire de l'humour.
C'est ça qui est bien.
Il faut quelque chose de particulier pour pouvoir... il faut de la matière. Ouais. Et là, on a une énorme matière. Il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il fallait presque se retenir de ne pas être tout le temps dans la comédie pour raconter une histoire. Parce qu'on était tenté déjà, de par l'histoire, d'y aller, de par le personnage, d'aller vraiment dans la comédie. Et puis, de par notre rapport aussi, hors plateau. C'est-à-dire qu'on était très gourmands à l'idée de jouer ensemble. Donc, on avait envie... D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées d'impro et de... Enfin, ils ont vraiment dû réduire la voilure parce que on partait dans des impros, on n'arrêtait pas les scènes en fait tous les deux.
Est-ce qu'il y a des vannes qui ont été enlevées ou coupées, ou même pendant que vous les faisiez, vous dites non, ça on peut pas faire ça, on peut pas dire ça.
Surtout que c'était trop long.
Parce que je le rappelle, en tant qu'arabe, on ne peut pas tout dire, n'est-ce pas?
c'était surtout trop long. C'était trop long. Je pense qu'on aurait pu faire 15 épisodes au lieu de 12, tellement on prenait plaisir à se rendre compte que la situation était là, elle fonctionnait, et nos personnages auraient pu jouer ad libitum.
Vous avez fait souffrir donc l'excellente Virginie Sauveur et Guillaume Niclou, quoi.
Absolument.
En gros.
Absolument. Et les monteurs.
Les réalisateurs de la série, voilà. Qui sont partagés le travail. Et ce qui est génial avec vos deux personnages, celui de Michel et du colonel, c'est que vous parlez tous les deux une langue un peu particulière. Donc vous, on vous connaît, Stéphane, en amont de la série pour votre capacité à jongler, à jouer avec les mots. Et quand vous vous retrouvez face au colonel qui peut vouloir vous parler en privation, par exemple, ou tout un tas d'expressions. Moi,
Non, c'est drôle.
Les épisodes, vraiment, on a envie de faire pause et de noter toutes les phrases, toutes les trouvailles, elles sont absolument géniales, et on se dit tout d'un coup, c'est au-delà de Kaboul, au-delà de cet univers un peu bizarre, c'est aussi deux univers linguistiques qui se rencontrent, deux visions du monde complètement opposées, et c'est ce qui fait aussi le sel absolu de la série.
Oui, et je crois que la force de cette saison, sans évidemment l'avoir vu les autres, mais ce qu'on en dit, c'est qu'on a créé un duo.
Ouais.
Je pense qu'avant, il y avait plus d'individualité, et ici, on a créé un duo, et c'est plus choral, c'est-à-dire que les personnages secondaires existent aussi davantage.
Ouais.
C'est aussi, je pense que c'est la force de cette saison 3.
Et ça vous peine de savoir que vous ne ferez pas de troisième saison ?
Stéphane de Groot, Simon Abkarian, Stéphanie Pasterkamp, Benjamin Belcourt, Karina Testa, Alexis Michalik, Marc Sitchi,
Sitchi.
Faisal Azizi, Amir Elkacem, Thomas Durand, Léonid Glouchenko, Natacha Lidinger,
Lidinger.
Assab Bouab et Lina El Arabi, entre autres, autant citer aussi tous les comédiens et les comédiennes, parce qu'il y a un vrai bon niveau.
Natacha Lidinger, elle est juste fantastique. Et c'est vraiment la force de
cette série. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Simon et Stéphane.
Oui, et quand je pense à vous, Stéphane, je pense à plusieurs personnes, plusieurs personnages, et je pense surtout à un poète qui savait de sa voix nous ensorceler.
L'indard venimeux, l'un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée. Dans un liquide saumâtre, plein de décoctions d'acide, qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main, et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles.
Vénus de Bachung. On parlait de capacité à faire sonner la langue, à associer les mots, à créer un univers. Je sais que vous êtes très sensible à ça. Il y a beaucoup de références que vous citez dans les interviews. Vous parlez de Gainsbourg, vous parlez de De Vos aussi. Mais Bachung, et voilà. Et j'aimerais qu'on parle un peu de Bachung. Qu'est-ce qui vous séduit tant chez lui ?
Lui ? C'est quelqu'un qui est authentique. Moi, j'aime bien les gens qui sont pas dans la posture, qui sont pas dans une pose particulière, et on devine à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il est, à travers ce qu'il fait, ce qu'il est. Et quand vous parliez de poésie, c'est ça la poésie, c'est de pouvoir observer à travers les failles ce que sont les gens et de se livrer d'une certaine manière. Et je le trouve bouleversant, moi, ce bonhomme. Et son dernier album, je crois que je l'ai écouté en boucle, il est sublime. J'ai eu la grande chance de rencontrer l'autre jour. Un des paroliers de Bachung.
Alors, il y a Jean Fauque, Boris Berman et Gaëtan Roussel, en l'occurrence, aussi sur le dernier album.
Sur le dernier album, mais avant, c'était celui qui a écrit Madame Rêve.
Exactement.
Ouais, c'est un très bel auteur. Je vais retrouver son nom, Pierre.
Oui. Mais il faut en tout cas préciser une chose, c'est que c'est vrai qu'il avait des auteurs qui travaillaient pour lui, mais qu'il rajoutait sa patte et qu'il modifie aussi le texte de ses auteurs.
Je crois qu'il a travaillé avec Gainsbourg aussi.
C'est un travail en commun. Oui, absolument. Oui. Sur Play, bien sûr.
Et vous l'avez côtoyé, vous l'avez rencontré un jour, Bachung, vous l'avez vu sur scène. Parce que j'imagine qu'un artiste comme ça...
J'étais très triste parce que je voulais aller voir son dernier concert.
Oui.
Et voilà, j'ai loupé le rendez-vous et j'aurais adoré, oui. J'aurais adoré.
Puisque tu aimes le sens de la formule, j'ai le triste privilège d'avoir été l'un des derniers à le croiser sur scène. C'était aux Victoires de la Musique lorsqu'il recevait ses nombreux prix. Et il était extrêmement fatigué, extrêmement faible ce soir-là. Il a reçu plusieurs victoires le même soir. Et dans le creux de l'oreille, au moment de quitter la scène, on se fait une accolade et une bise. Dans le creux de l'oreille, il me dit « Après ça, je peux partir ». Et oui. Voilà, le sens de la formule et des bons mots et de l'émotion forte.
Et quand je pense à vous, Simon, je pense à un artiste que j'aime beaucoup, un réalisateur qui vous a déjà dirigé et qui est connu pour son franc-parler.
Parce que je crois qu'on ne peut pas filmer la violence. En fait. Ça devrait être interdit par la loi. Voilà, parce que, ou du moins, il faut. Ou alors, la seule manière de filmer la violence, c'est de la filmer de telle manière à ce qu'elle ne soit pas regardable. Et c'est un paradoxe absolu. On ne peut pas faire des films qu'on ne peut pas regarder. Voilà. Donc, tous les gens qui filment de la violence de manière spectaculaire et attirante et jouissive sont des connards.
Voilà, ça c'est. Alors, ça se dit.
T'as compris ?
C'est envoyé, voilà. C'est Robert Guédiguian. Voilà. Et je ne peux pas évoquer Robert Guédiguian sans évoquer Ariane Ascaride, pour qui j'ai une passion sincère.
Ouais.
Votre lien à tous les trois, c'est quoi ?
Bah, on est amis, d'abord. Mm-hmm. Et puis on est des grandes bouches aussi, et puis on a une chose qu'on partage, c'est le sens de l'injustice. Voilà, ça nous unit et ça nous révolte aux mêmes endroits, et ça nous amène à réfléchir aussi sur qu'est-ce que ça veut dire être engagé artistiquement, qu'est-ce que ça veut dire être.
Qu'est-ce que ça veut dire alors ?
Qu'est-ce que ça veut dire être engagé artistiquement ? Ouais. Je continue à le découvrir. Hein. En tout cas, c'est aussi de se préoccuper. des autres alors que nous on est censé aller bien, quoi. De pas laisser le ventre plein gagner sur la conscience de l'autre qui est en train de souffrir. C'est ça aussi. Et puis de raconter des histoires qui puissent être, comment dire. Moi, je pense qu'on peut dire des histoires qui soient fortes et qui puissent interpeller les consciences tout en faisant qu'elles soient rentables, entre guillemets, et que ce soit pas d'un ennui. Parce que souvent, l'argument des gens qui disent « Ouais, c'est chiant, le théâtre engagé, le cinéma engagé, c'est pas vrai. Ken Loach, il fait du cinéma engagé, c'est pas chiant. Ça, il est dans son économie à lui, Robert Guédiguian, il est dans son économie à lui. » Et il arrive à, voilà, leur boîte de production marche très bien et ça continue.
Il avait fait une histoire de fou, vous aviez joué dans ce film, vous avez dirigé, c'était quand même un film qui revenait sur le premier génocide du siècle, le génocide arménien.
Ouais.
Ça, c'est aussi un sujet qui vous unit avec Robert Guédiguian dans cette envie de donner à voir, à entendre et à comprendre.
Oui, d'une manière universaliste aussi. Ouais. C'est pas seulement d'une manière communautaire sur les Arméniens, parce que tant qu'on n'aura pas réglé, tant que les Turcs, les générations à venir turques n'auront pas compris qu'en réglant ça, ils régleront leur problème avec ceux qui restent, donc les Kurdes, les Yézidis, les Alevis, tous ceux qui restent là-bas, et ça continuera. Ça continuera. Et tant qu'ils n'auront pas réglé ça, ben on y assiste, on y est là. Mm-hmm. Avec Erdogan, on y est.
Ouais, c'est un film qui a d'autant plus d'importance, je trouve, dans ce contexte.
Je crois qu'ils finiront par se battre avec leur ombre s'ils continuent comme ça.
Tristesse. Vous parliez de Robert Guédiguian, on va évidemment évoquer aussi Ariane Ascaride, avec laquelle vous allez jouer L'envol des cigognes. Ouais. Ça se passera au théâtre du Gymnase. C'est la fin de votre trilogie consacrée aux femmes.
Ouais. Femme méditerranéenne.
Et la Méditerranée. Et Pénélope.
C'est le dernier. C'est le dernier volet que j'ai écrit en 2008. Enfin, je fais comme la guerre des étoiles. Je remonte le temps comme ça. Et là, j'ai fait le dernier jour du jeûne, qui est le paradis. L'après, c'est l'envol des cigognes. C'est le paradis perdu. C'est la guerre civile. Et après, Pénélope. C'est la femme qui
fait croire qu'elle travaille à l'Assemblée nationale.
Non, c'est pas ça. Presque ça.
Qui attend le retour.
Qui attend pas le retour de son mari, qui résiste aux tentations pendant l'absence de son mari.
Ouais, les prétendants qui viennent à sa porte.
C'est Ulysse.
L'histoire d'Ulysse. Ouais.
C'est ça. Je voudrais juste.
Non, c'est l'histoire de Pénélope. Hein. C'est Pénélope qui résiste, les mecs. Hein. J'ai pas envie de faire un truc sexiste ou féministe. Mais c'est Pénélope qui attend.
Pénélope, je suis désolé, elle fait croire qu'elle travaille pour pas.
Non, elle fait pas croire, elle travaille, mais elle défait.
Elle défait son travail.
C'est pas exactement pareil.
Comme quoi, c'était pas super bien fait non plus.
Super clair. Déjà, c'était une toile. Fictive, Ulysse, lui, il travaillait.
Non.
Et je détie.
Ulysse, il errait à son retour de Troie, il s'arrêtait chez les femmes, il s'arrêtait chez Circé et Calypso.
Si je peux me permettre, moi je pense qu'Ulysse était un criminel de guerre et pour se guérir de tout ce qu'il avait fait, il allait voir diverses femmes jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il fallait qu'il revienne vers la sienne.
Circé, Calypso, il a passé 10 ans à rentrer.
Qu'est-ce que Cousteau vient voir là-dedans? Comment ça nous a sur RMC Culture? Je n'en peux plus.
France Inter. La bande originale, le best-of, avec Nagui.
C'est Julien Doré qui est dans cette bande originale avec Romy.
Sei tu l'angelo, spero. France Inter.
Voici l'humeur de Nora Mzaoui. Merci.
Merci Leïla pour les encouragements. Ouais. Bah écoutez, je l'ai encore jamais dit et je peux vous dire que ça me fait pas du bien de le sortir. Je suis pas fière de vous l'annoncer, mais voilà, aujourd'hui ça va comme un lundi. Paf, voilà, c'est dit. Comment commencer l'année avec une bonne expression de dépressif, si je le dis. Je dois avouer qu'avant, je jugeais les gens qui utilisaient cette expression. J'en avais fait une catégorie à part, les gens qui bossent dans des entreprises de plus de 1000 salariés, qui ont les moins moites et qui font des after-work et qui volent des critériums dans les placards à fourniture. Aujourd'hui, je suis carrément pour créer des variantes de l'expression. Ça va comme en janvier, ça va comme un samedi soir devant TF1, ça va comme après France-Portugal en finale à l'Euro. Ça, tout de suite, ça vous parle plus. Hein.
Bah oui. Là, j'ai enfin compris une expression.
Je pense à TF1.
Ouais, ça va comme un premier jour de solde quand je me rends compte que le pull que j'ai acheté la veille est soldé à moins 50%, alors que la vendeuse m'avait dit « Ah non, celui-là, c'est un basique, on le soldera pas. » Bref, ça va bien, quoi. Non, mais il faut dire que le mois de janvier est terrible. Encore ce matin, j'ai croisé une voisine dans l'ascenseur qui était dans le même état que moi et qui m'a sorti « Et encore, attends, il paraît que c'est prouvé scientifiquement que c'est le troisième lundi du mois qui est le pire jour, le jour le plus déprimant de l'année. » Non, mais comme si j'avais besoin d'une preuve scientifique ou de stats pour me taper une dépression, quoi. Je te jure, insupportable, ces gens qui nourrissent leurs arguments de chiffres et de sciences, c'est eux qui vont t'expliquer pendant une turbulence en plein vol, quand les masques à oxygène tomberont, que mais si, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Insupportable. En plus, je suis pas du tout d'accord avec cette info-là. C'est le début janvier qui est le plus déprimant, pas la fin. Il est insupportable ce mois de janvier. C'est pas un mois, c'est juste la gueule de bois de décembre. T'as tous les restes des festivités, mais que dans le côté relou. Des papiers cadeaux qui traînent, des cadeaux improbables qu'il va falloir foutre sur le bon coin, des restes de bûche au frigo, sans parler de la tranche de foie gras qui traîne dans une assiette depuis tellement longtemps qu'elle est devenue toute rouge et que même ton chat n'en veut pas. Et puis alors le sapin, quel enfer, le sapin avec le froid qu'il a fait. T'as tellement surchauffé ton appart appart, il est devenu tout sec et voûté. Là, il est... c'est plus un sapin que t'as chez toi, c'est une vieille dame qui fait de l'arthrose que t'as eu la gentillesse d'accueillir pendant les fêtes.
Avec les boules qui traînent.
Attends, mais oh, l'enfer, non, elles sont toutes en train de tomber.
Bah,
je veux dire, non, mais je pourrais le foutre dehors, hein, évidemment, mais bon, ça me fait mal au cœur de virer une vieille dame comme ça chez moi juste après les fêtes. Il me fait tellement de peine, c'est terrible. Ce matin, en venant à la maison de la radio, j'en ai croisé plein sur le trottoir, il y en a un qui m'a fait chialer. Du coup, à un moment, je me suis surprise à lui chuchoter bisous, bon retour. Et comme j'ai vu que quelqu'un m'avait vu parler au sapin, du coup, j'ai fait genre, c'était pas au sapin que je parlais, mais genre juste toute seule comme ça. Donc j'ai répété dans le vide bon retour, bisous, bon retour, bon retour. Ouais, ça va super donc en ce moment. De toute façon, vous inquiétez pas pour moi, chaque année c'est pareil. Il y a une chute de morale une semaine avant Noël, un gouffre début janvier, puis ça remonte un peu à l'épiphanie, merci la frangipane. Je crois que le pire, c'est le 1er janvier quand tu croises tous les gens à la pharmacie. Ah bah la bouffe tout le temps, un bon cheese nan de la frangipane et ça va mieux. Je crois que le pire, c'est le 1er janvier quand tu croises tous les gens à la pharmacie de garde en train de s'acheter de l'aspirine et de la citrate de bétaïne. Non mais franchement, ils auraient pas pu anticiper leur gueule de bois. Et toi qui dois te taper de faire la queue alors que t'as juste besoin de fleurs de bac pour arrêter de chialer à chaque fois que tu croises un sapin, je vous jure, ils me saoulent tous. Moi, pour le coup, cette année, pour le 31, j'ai décidé de rien faire. Alors, je dis pas que d'habitude, c'est la folie, mais bon, disons que je fais un peu d'effort, je mets une fringue avec un peu de lurex et tout. Là, cette année, rien, mais rien du tout. Ah, mais j'ai décidé de complètement assumer de rien foutre. Un 31 tranquille chez moi en legging. Paf. Alors, non, mais très bien. Alors, aucun problème. Je veux dire, il y a des gens qui disent, ah, mais tu sais, le 31, c'est hyper important de bien le fêter parce qu'il sera à l'image de l'année que tu vas passer. Enfin, sachant que ces gens-là, ils disent généralement ça entre deux chenilles, je me demande bien quel est leur projet pour l'année. Donc, pour passer le temps, j'ai quand même invité quelques amis qui avaient décidé de rien faire non plus. Et on a décidé de tous rien faire tous ensemble en attendant minuit. Bon, et ben le temps est long hein, quand tu décides de ouais, c'est même là que je me suis aperçue qu'en fait rien faire c'est rarement une décision, c'est plus un état d'esprit, une façon de vivre, un truc qui s'est pas concrétisé. Donc là on était tous ensemble assis sur le canapé, à la fois on se demandait ce qu'on pouvait faire tous en se répondant que bah non, ben on a décidé de rien faire donc on fait rien. Du coup on a passé pas mal de temps à mater les photos des gens sur Instagram qui faisaient la fête et quand on tombait sur un statut du genre gastro au lit pour la Saint-Sylvestre, on était oh là là la loose son 31 lui. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, j'ai mon niveau bon esprit, j'ai pas tellement pris de résolution. En revanche, je vous souhaite d'être heureux, heureux comme un mercredi quand tu te rappelles que demain c'est férié et que tu vas faire le pont, comme après une commande McDo quand tu te rends compte qu'ils t'ont mis une frite en plus, comme quand tu te réveilles après avoir rêvé que tu avais perdu toutes tes dents et qu'en fait t'es trop content de les avoir encore. Ouais. Enfin bref, je vous souhaite d'être très heureux. Quoi.
Merci.
Merci. Merci. La bande originale. Le best-of.
On va parler à 11h31 de la bande originale de Sarah Forestier et Vincent Elbaz. C'est-à-dire que nous avons pris quelques dates comme ça qui ont pu marquer votre vie ou votre carrière professionnelle et on va comparer ce que vous faisiez l'une et l'autre pendant cette année 86 où Vincent, vous aviez déjà envie de devenir comédien et 86, c'est la date de naissance de Sarah Forestier qui évidemment n'a aucun souvenir musical. Si ce n'est peut-être le lieu de cette naissance. Attendez, c'est un blind test maintenant, il faut deviner. Où est-elle née ?
En Allemagne.
Non.
À Paris ?
Non.
Pas mal.
Autriche ?
Non.
Regarde ma tête.
Oh ben non,
la forme de mon visage.
Non, mais ça va pas, non.
Comment ça? Moi, j'ai rien dit d'indécent. Je regarde mon sein.
En Vietnam.
Regarde mon visage.
En Vietnam.
Non, mais on dit rien, surtout. On va se fâcher soit avec un pays, soit avec
vous. Bah oui, donc, non, puis
côté...
Ça fait un peu danois ce qu'on entend.
Tu en expliques pas comment? T'as dit quoi?
T'as fait un peu
il est pas bon, il est pas bon, il a un casque et dans en régie ils en avaient marre, ils ont fait Eddie Danemark, on en avait la marre. Vous n'êtes pas joueur, c'est ça votre problème vous ici, vous n'êtes pas joueur.
Mais non, c'est qui c'était.
Non, mais l'information.
C'est long, ouais.
C'est l'hymne du Danemark que nous sommes en train d'entendre.
Hein. On l'a pas souvent entendu celle-là quand même. Hein.
Ouais. Non.
Mais version piano. Enfin, lente.
Oui,
c'est ce que je veux dire.
C'est plutôt voix.
Il s'y connaît en musical. Ah, le
vous êtes né au Danemark, ce qui n'est pas, ce qu'on retrouve pas spécialement sur Internet. Vous êtes plutôt né à Paris, sur les Wikipédia et compagnie.
Oui, mes parents étaient en voyage. Enfin, ils sont restés un peu avant de se poser avec les enfants au Danemark, en Italie et tout. Donc, je suis né au Danemark.
D'accord. Et vous avez grandi à Paris,
intramuros. Oui.
Une vraie parigote, quoi. La vraie.
Mais si je veux, j'ai la double nationalité.
Waouh.
Et là, vous avez envie ou pas?
Non, en ce moment-là, tout de suite, non.
Non, pas là, non.
Pas là. En 86, Vincent Elbaz écoutait ça. Ou pas. Ah, on l'a pas, très bien. Bon, il écoutait rien, alors.
Attendez, on m'a demandé 86. Avant que je vienne à l'émission, on m'a demandé 2003, moi.
Ah bon, d'accord.
En 86, j'ai écouté Cyndi Lauper, je pense. Un truc comme ça, bien. Non.
Oh, je sais pas. Peter Gabriel, peut-être, ça jamais.
Pas tellement. Ouais, non, ça passait.
Ça mais c'est
pas...
quoi ces trucs? Je connais même pas les noms.
Ça m'arrange pas Peter Gabriel, là, tout de suite.
Peter Gabriel, non, mais si, vous connaissez Peter pas Peter Gabriel.
Peter...
ça passait quoi.
J'écoutais, mais, mais je préférais Cyndi Lauper.
Ouais, mais Nagui, il avait très envie d'écouter Peter Gabriel.
J'ai compris, non, mais j'ai bien compris que l'invité.
C'est hein, le seul morceau qu'on a eu.
Non, tu veux, on peut écouter les Bangles, on peut écouter aussi les Bangles si tu préfères.
Aucun regret, alors vraiment, rien à foutre. Hein. Les deux.
Bon, alors peu importe. Toujours est-il que vous avez fait du théâtre à la MJC de Chili Mazarin. Ouais. Vous avez appris quoi là-bas ? D'abord, on vous a mis au théâtre parce que.
Est-ce qu'on on m'a mis au théâtre ?
Oui, c'est la question.
C'est un choix. C'est un choix. Non, personne ne m'a mis un flingue sur la tempe pour aller à la MJC.
À 11 ans, c'est un choix, c'est pas les parents, franchement.
12 ans, non, 12 ans. 12, ouais, enfin, 12 ans. Non, non, c'est un choix. Non. Mm. Non, je voulais devenir acteur.
Voilà. À 12 ans.
Ouais, je sais pas pourquoi.
Bah mais oui, mais pourquoi ça vous choque? Elle est là, t'as 3 ans.
J'ai fait une première tentative qui m'a pas plu à la MJC, effectivement. Et puis voilà. Non, non, mais je faisais une heure par semaine. Non, ça m'a ouvert des horizons, des portes sur le monde.
C'était alors, génial. Quel a été le déclic? C'était, vous avez vu un film, il y avait un comédien que vous vouliez imiter, des posters dans votre chambre de,
non,
je sais pas,
si,
de Belmondo,
j'avais des
de
images
Bruce
de plein d'acteurs, j'avais des cassettes, des VHS de
quel genre de film?
De tout le cinéma noir américain, cinéma noir français des années 30, Gabin, Jouvet, Simon.
Ça, c'est une culture familiale.
Humphrey Bogart. Ouais, c'est le ciné-club. Non, mais moi, je suis de la génération du ciné-club, là. Du dimanche soir, du film du ciné-club en noir et blanc. Donc voilà, j'ai vu tous ces films-là, évidemment, toutes les comédies, tous les cinémas muets. Enfin, moi, j'ai adoré le cinéma, hein, j'adorais ça.
En 2003-2004, Vincent Elbaz écoutait Eminem. On va rappeler qu'en 95, donc, vous avez tourné dans Le Péril Jeune, où vous avez été, vous étiez remarquable, mais surtout remarqué par Sarah Forestier. 99, vous étiez dans Peut-être. Vous avez joué avec la piche toujours, ni pour ni contre, bien au contraire. Et là, sont comme des retrouvailles. C'est-à-dire que la piche était un peu votre protecteur, c'est votre parrain.
C'est la première fois que j'ai eu une expérience devant une caméra. C'est avec lui. C'est Le Péril Jeune. Ça m'a marqué. Et puis, je pense qu'on n'avait pas terminé d'explorer ensemble, de travailler ensemble. Je pense qu'il m'a énormément apporté, il m'a fait progresser.
Quel rapport on a avec un réalisateur comme ça, celui qui est le premier à mettre le pied à l'étrier, qui vous retrouve
à chaque fois, j'ai eu envie de lui prouver autre chose. Bizarrement, j'avais une pression à chaque fois que je retravaillais avec lui. C'était pas détendu du tout.
Incroyable.
Ouais, c'est marrant. Ouais.
Mais comme un prof qui vous jugerait, comme
je sais pas, comme quelqu'un à qui j'ai envie de prouver, voilà, autre chose quoi. Bizarre. Là, il y a qu'avec lui que ça m'a fait ça. Le reste,
Même là encore aujourd'hui, vous tourneriez devant lui, vous seriez.
Je désespère pas de retravailler avec lui, mais je pense que je sais pas pourquoi. J'ai aucune. Je pense parce que c'était la première fois,
ouais.
Que je jouais devant une caméra, que ça a été une révélation, que ça a été assez magique avec lui, le Péril Jeune, le tournage du Péril Jeune. Parce que je sais pas, il nous a demandé tellement que peut-être que. Je sais pas.
Dans 10%, vous avez passé une tête ou pas?
Non.
Il a réalisé, non?
Non. Non, mais j'aime bien la série, ouais.
Non, parce que je crois que c'est lui qui réalise.
Ouais, il a réalisé. Non, c'est le directeur artistique, ouais.
Ah, pardon, d'accord.
En fait, c'est Lola Doyon qui a réalisé. Puis il y a d'autres gens, je crois.
Ouais.
Non, vous pourriez faire un guest comme il y a beaucoup. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de guests dans ça. C'est une très belle série. À ce moment, Sarah, vous écoutiez.
Demain c'est loin, on n'est pas pressé, au fur et à mesure on avance, en surveillant nos fesses pour parler au futur. Le futur changera pas grand chose, les générations prochaines seront pires que nous, leur vie sera plus morose, notre avenir c'est la minute d'après.
Et c'est évidemment la rencontre avec Abdelatif Kechiche, avec l'esquive, où vous incarnez Lydia, cette jeune fille de cité qui répète une pièce de Marivaux. C'est un souvenir là aujourd'hui, j'allais dire... 2017, la première fois que je dis, c'est très émouvant. Quand vous replongez dans ces moments de tournage, dans ce que vous avez vécu avec l'esquive, ça a totalement retourné votre vie.
Ah ouais, c'était intense, c'était bon quoi. C'était jouer toute la journée, ce que je rêvais de faire quoi. C'est-à-dire jouer la comédie toute la journée avec un metteur en scène qui est un génie, quoi, donc qui vous donne un terrain de jeu extraordinaire.
On dit tout et son contraire de lui.
Oui, bah parce que c'est un génie, il est incompris, c'est génial. Je m'en fous, moi, de comprendre les gens. Ça m'intéresse pas de comprendre. Je veux vivre quelque chose avec la personne. Et lui, c'est... On se sent plus que vivant, quoi. C'est vivifiant. Je sais pas quel mot on pourrait inventer, mais c'est... C'est comme une grande histoire d'amour, quoi. C'est les choses qui vous marquent. Alors après, qu'il y ait de la douleur, oui, mais tout est douloureux dans la vie. Tout est douloureux. Quand vous faites une grande histoire d'amour, ça vous fait mal aussi, mais on prend des risques quand on veut vivre des grandes choses. Donc c'est un génie, et voilà. Et mais moi, cette musique, je peux parler de la musique ?
Je vous en prie.
Parce que c'est quand même une bande originale, le titre de l'émission. Non, mais cette musique, en fait... je vous regarde.
Oui, c'est très bien.
Ramène au concept. Mais cette musique, elle me fait penser, en fait, parce que sur le tournage, j'étais avec un mec... qui était, c'était génial parce que j'étais adolescente, attention, j'avais 15 ans et je sortais avec un mec de 24 ans, un gros lascar, et il avait une Twingo rose. C'était mortel, il venait me chercher au lycée avec sa Twingo rose et je me la racontais. Et il écoutait cette musique en boucle, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et en fait, pour la petite histoire, ce garçon, en fait, je me suis rendu compte, j'ai vécu une histoire d'amour avec lui pendant 6 mois, mais moi je le voyais comme un dieu, quoi. Il avait 10 ans, presque 10 ans de plus que moi. C'est lui qui m'a fait découvrir la sexualité et tout. Et il était incroyable, animal et tout ça. Et en fait, après l'histoire d'amour que j'ai vécu avec lui, je me suis rendu compte qu'il savait pas lire. Et moi je l'ai appris, en fait, après coup. Et ça a été le point de départ du film que j'ai réalisé, ouais, là.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, du coup, je me suis séparée de lui pendant le tournage de l'esquive. J'ai appris qu'il savait pas lire, ça m'a choquée parce que pendant 6 mois, il me l'avait caché. J'en ai parlé à Abdel en lui disant, faut faire un film sur ça. Et 15 ans après, bah, c'est le film que j'ai réalisé. Voilà.
Ah d'accord, une belle histoire.
Il n'y avait pas de SMS à l'époque et tout ? Non,
bah, non, pas encore.
Non, pas encore.
Non, non, mais c'était génial parce qu'en fait, il travaillait dans une banque.
Il y avait des tatous ?
Si,
non, mais d'échanges entre eux.
Ah, il n'y avait pas d'échanges.
Non, il y avait des échanges, mais plus...
Ouais, pas tout ça.
Et en fait, il gardait une banque la nuit.
D'accord.
Alors que c'était un cambrioleur en plus, c'était génial. Donc il gardait une banque la nuit, donc j'adorais.
Vous êtes à l'antenne, Sarah, tout ce que vous dites.
Vas-y, donnez son nom pendant qu'on
est. C'est pas grand chose encore. Et donc, bref. Et donc, je me retrouvais dans le truc. En plus, c'est la BNP aujourd'hui, la Grande Avenue de l'Opéra.
Arrêtez.
Et donc, on était là. Et donc, attention, on avait 4 étages pour nous. Et donc, dans la BNP, on était là-bas, on passait des nuits entières là-bas.
Que vous montiez.
On en a froncé les prospectus.
Et j'adore parce que le mec, il savait pas écrire, mais il taguait. Ouais. Et en fait, il avait appris des lettres par cœur. Et il me disait comme ça, il me disait, attends, je vais faire ma ronde. Et bien sûr, il faisait pas sa ronde. Et il tournait la tête pour faire un rond comme ça en disant, je fais ma ronde. Et après, il mettait RAS, rien à signaler. Et il écrivait juste RAS sur son papier. Donc moi, je croyais qu'il savait écrire parce qu'il avait écrit RAS quand même. Et en fait, ben non, c'était, il écrivait en tag.
Et vous viviez votre romance la nuit dans la banque fermée.
Ouh, c'est un peu folichon.
Oui, c'était pas grand chose, oui. C'était pas grand chose, enfin, moi, je veux dire, pour la.
Pour la légalité.
Bah, je veux dire, pour comme un des mortels, c'est pas un lieu
d'exposition. Souvent, à 15 ans, tu vas pas.
Ouais,
chez toi.
Bah, c'est devenu une grande banque BNP. À chaque fois que je passe devant, je pense à Mohamed.
Allez, elle a chuté, allez, c'est bon.
Vous avez essayé auprès de la BNP de négocier pas d'agio, pas de tout ça.
Mais attends, non, en plus, j'ai parlé de. Ouais, bon, bref, non, je suis nul en ça. En oseille, je suis très nul.
En 2007, Vincent Elvaz, écoutez. Qu'est-ce que c'est bon, ça.
C'est une musique d'escroc, encore, ça.
Mais non.
Pourquoi je l'imagine, toi,
mais c'est un cabriolet, des grands
cuillères.
C'est ton fantasme, ça.
Bah oui, mais je sais pas, mais je le vois en escroc tout le temps.
Je sais pas.
Il y a un truc avec les escrocs autour de cette dame, non.
Ouais, j'ai toujours écouté ça, ouais. J'écoute ça depuis que je suis môme.
Il y a un groove incroyable.
Ouais.
C'est l'une des blanches qui chante le plus comme une noire en plus. C'est, ouais, ça, qui est, ouais, c'est ça qui est fort et qui fait partie de ce triste club des 27. C'est-à-dire
oui,
ceux
non,
qui sont morts à 27 ans.
J'étais amoureux d'elle, moi, quand j'étais petit. Elle avait une pochette de disque avec elle sur une Harley avec des lunettes violettes. Comme ça.
Ah, ça les cheveux longs et le bandeau dans les.
Il y a un truc avec les motos, toi.
Ça fait très, ouais, ça fait très BNP, là, dans le son. Il y a un truc à BNP.
J'écoute ça depuis que j'ai 6-7 ans. C'est mes parents qui écoutaient ça. Donc. J'ai toujours écouté ce morceau.
Mercedes-Benz aussi. Oh ouais. Lord, only by me, Mercedes-Benz. Vincent, vous êtes mis en scène par John Malkovich en 2007. On parlait tout à l'heure de la manière dont Clapiche était impressionnant, ou dans votre rapport en tout cas. J'imagine que se retrouver dirigé par Malkovich.
Ça m'a pas fait ça avec Malkovich. J'étais plus à l'aise avec Malkovich, bizarrement. Mais je sais pas pourquoi.
Il n'y a pas l'aura de.
Non, c'est-à-dire que si.
La reconnaissance mondiale,
oui. Je ne le connaissais pas. Non, mais c'est comme quand on tombe quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà, on se fait connaissance. On se renifle un peu comme ça, voilà. Mais et puis
sur un plateau de théâtre, je savais que je, de toute façon, je pouvais pas lui mentir. Enfin, à un moment donné, il allait tout voir, tout. Donc, toutes les lacunes, tous les défauts, tous les. Donc, j'avais pas peur.
C'est marrant de dire ça.
J'avais absolument pas peur.
Je peux pas mentir parce que
je me suis montré tel que j'étais.
Le premier boulot d'un comédien, c'est peut-être de mentir. C'est de jouer, c'est de feindre, c'est de prétendre.
Non, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique dans des circonstances qui sont fictionnelles. C'est ça le problème. Donc c'est pas de mentir, au contraire.
Ouais, au contraire, ouais, c'est de s'arnaquer soi-même. Bah, vous parliez d'arnaque, on s'arnaque soi-même pour se faire croire. Ouais. On passe notre temps, en fait, quand on est comédien, à essayer de s'arnaquer pour se faire croire que ce qu'on vit est vrai, sur le moment. Mmh. Et ça, c'est génial.
Et il faut traverser cette expérience pour de vrai, quoi. C'est ça qui est...
Qui vous impressionne, ou pourrait vous impressionner maintenant, si vous rencontrez... On parlait tout à l'heure de l'impact ou de l'effet quand vous croisez Clapiche ou Malkovich.
Non, mais moi, je suis toujours... Enfin,
vous êtes toujours impressionné ?
Quelque part, je suis toujours impressionné par l'autre. Hein. L'autre m'intéresse. Voilà, je le vois avec un grand A, l'autre. Hein. Donc, je suis toujours impressionné par l'autre. Moi, les autres acteurs, les autres. Ils m'intéressent, ils m'impressionnent. Voilà. Après, il faut que je me fasse violence pour les bouffer. Sur...
Ça s'est passé comme ça avec Sarah ?
Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas. Oui, bien sûr. Il y a un moment donné, il y a un rapport qui s'établit, qui peut être un rapport de force, mais c'est pas forcément c'est dans se laisser envahir par l'autre, quoi. Faut se laisser faut recevoir tout ce que l'autre a à donner, et pour recevoir ça, faut accepter d'être vulnérable, d'être je sais pas. Enfin moi c'est comme ça que je travaille, quoi. Et puis surtout d'être honnête, c'est-à-dire dans une scène, j'aime pas tellement moi les partenaires qui planifient leurs petits trucs avant de jouer, hein, et qui vous servent leur sauce là, tout préparé là, c'est des petits plats tout faits là, j'aime pas tellement ça.
Vous pensez à quelqu'un en particulier ?
Non, mais on a tous tendance à faire ça des fois quand on n'est pas rassuré, on prépare son truc, on se dit ah, je vais la jouer comme ça, etc. Et moi je trouve pas ça très honnête. Et moi quand je le fais, j'aime pas, je me déteste de faire ça.
Vous voyez la différence entre les comédiens qui sont coachés et ceux qui sont comédiens sans être guidés ?
Je sais pas. Ah, j'ai jamais su si un acteur était coaché ou pas en face de moi.
Ouais, c'est bizarre parce que tu vois, moi par exemple, je prévois grave à l'avance.
Ah ouais.
Non mais c'est vrai.
Bah moi j'aime pas faire ça.
Mais... Ouais.
Oui, mais visiblement, vous l'avez.
Moi, j'aime bien, là, moi. En fait, c'est bizarre, c'est de réussir à faire ce que j'avais exactement prévu.
À être vrai là-dedans. Hein.
Mais qu'il y a un moment de lâcher prise dans ce truc-là. C'est tellement bizarre, quoi. C'est-à-dire, on prévoit un truc bien précis. Moi, par exemple.
Ouais, mais tu prévois. Oui, d'accord, mais tu prévois, mais quand
vous êtes pas rendu compte sur le tournage.
Quand on refait sans couper, voilà. Il y a un moment donné, est-ce que tu lâches ? C'était pas prévu. Que tu lâches, t'es vu.
Ouais, mais c'est bizarre parce qu'en fait, les meilleures prises, c'est souvent. Enfin, il y a ce. Enfin, bon, bref, on s'en fout.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous deux, 11h46. aujourd'hui.
Les meilleures prises, vous voulez dire, c'est quoi ? C'est plutôt
les. On parlait de rapport de force.
C'est plutôt les premières ? Vous pensez celles qui
non,
sont.
Pas non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je sais pas. Non. Oui, moi, j'ai un truc. Je sais pas. Par exemple, quand j'ai fait le casting de La Tête Haute. Oui. J'avais prévu un personnage comme ça, puis au final c'est le personnage qu'il y a dans le film, donc j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire, du rôle, et puis le tout c'est d'arriver à faire cette chose-là précisément, avec en même temps un lâcher prise pour qu'il y ait à un moment donné un espèce de truc en suspension, quoi, qu'il y ait une petite magie qui puisse rentrer, mais en même temps si je suis à côté, je sens que si je fais pas ce que j'avais prévu initialement de manière simplement en termes d'idées, oui. Bah, à chaque fois, c'est à côté, c'est pas intéressant. Donc le tout, c'est d'arriver à faire l'idée que j'avais en tête et qu'en même temps, il y ait de la magie. Non, c'est pas très intéressant.
C'est complexe.
C'est intéressant.
C'est pas clair, mais c'est très intéressant.
Je m'en fous, je bois mon
Starbucks. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de construire, en fait. C'est-à-dire le fait d'être vrai et authentique et pulsionnel. Parce que Sarah, elle est quand même vachement impulsive sur un plateau. Moi, ce que j'ai vu, c'est des.
Elle a pas l'air d'être d'accord.
Non, mais c'est bizarre.
Mais là, elle peut rien dire, elle a la bouche pleine.
Non, mais entre ce qu'on ressent de l'intérieur et ce qu'on voit de l'extérieur, c'est il y a deux mondes, quoi.
Ouais, exactement.
Moi, j'ai joué avec une actrice. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir travaillé avec une actrice qui est très, très sur l'impulsion, quoi. Qui récite pas son texte, qui dit pas
c'est
son texte.
C'est le sentiment qu'on a, nous, en tout cas.
Qui incarne tout ce qu'elle fait.
Absolument, ouais. Voilà. C'est le sentiment qu'on a, nous, en voyant.
Moi, je vois mon scénario, j'ai des annotations de partout. Alors, elle est sèche sexuellement, elle a fait l'amour depuis je sais pas combien de temps.
Vous faites la Bible de votre personnage pour savoir quelle est son humeur en fonction de la situation.
Oui,
après,
donc,
vous vivez la situation. Oui, vous préparez l'environnement et après, la situation, vous la vivez dans son jaillissement.
Par exemple, quand on dit action, j'ai pas vu quelqu'un qui planifie à l'instant T. T'es dans le moment.
J'étais bien arnaqué.
Voilà. Peut-être. C'était une escroque.
Allez juger par vous-même. Le film s'appelle. Le film s'appelle Primaire et il est réalisé par Hélène Angèle. Daniel Morin, on se rend bien compte que le métier de professeur est beau, c'est essentiel. On oublie souvent à quel point ça peut être dur, compliqué. C'est pas toujours facile.
Oh nom de Dieu, le bestiau. Putain, 2017, année de la bête. Est-ce que c'est ce que vous êtes, Monsieur Guy? Une bête, un animal, malin comme le fennec, teigneux comme le blaireau. Certains matins, odorant comme le putois, mais bon, ça va. C'est couvert par les odeurs de naphtaline qui émanent du public.
Vous êtes loin, ils sont dessus, hein.
Ne bougez pas, ça se diffuse quand on bouge. Hein. Nom de Dieu, oh la vache. Vous êtes une bête, c'est vrai, même si ce matin on est plus proche du veau que du taureau, monsieur Guy. Désolé, mais vos propos sont affligeants de niaiserie post-syndicaliste. Je sais, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais je fais ce que je veux. En même temps, on devait s'y attendre. Un fils de prof comme vous, monsieur Guy, ne pouvait que participer au discours de désinformation de cette radio de profs aigris écoutée par des profs en arrêt maladie.
Non.
Le métier de prof, s'il est le plus beau du monde, c'est surtout parce que c'est un sacré boulot de feignasse, oui. 18 heures par semaine, tu parles. 12 maximum. Des vacances la moitié de l'année, un boulot à vie, l'autorisation de coller les enfants, que du kiff, monsieur Guy. Et je suis bien placé pour en parler. Fut une époque, moi-même, j'étais prof. Eh oui.
Quelle horreur.
Prof de survie dans les Ardennes. Ardennes, région de France dévastée par la maladie, l'illettrisme et la pauvreté. Une région où des millions, il y a déjà des millions d'années, l'évolution de l'espèce avait jeté l'éponge. Bref, eh bien, n'empêche que chaque semaine, là-bas, dans le pays des Ardennes, payé par l'éducation nationale, j'en foutais pas une. En plus de l'argent, les gens me donnaient leur gibier, leurs fruits, leurs légumes, leurs filles. Bref, une vie de cocagne. Jamais je n'ai autant reçu pour donner aussi peu. Même ici, je travaille plus, c'est pour vous dire. Alors non, c'est pas dur comme métier. Non, c'est pas compliqué. Désolé, monsieur Guy, mais malheureusement, j'ai bien l'impression que le passage à la nouvelle année n'a rien changé. Aujourd'hui, vous avez encore dit...
N'importe quoi.
Merci, Daniel Morin. Je vous en prie.
Le meilleur moment de la bande originale avec Nagui.
Patrice, le voici en live dans la bande originale.
Happening, dab, 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 when we turn up the melanin, foo, foo, ba. C'était Patrice We Are Revolution en live dans la bande originale. À suivre la deuxième partie de l'émission avec Nagui et toute son équipe.
Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kado Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou et Guillermo Guiz. Notre invité Pierre Arditi dans ce best-of et vous allez retrouver en live Vincent Delerme. Le meilleur de la bande originale, suite et fin, c'est maintenant.
Mieux, mais pas plus vite.
Lucas Snyder, donc cette pièce que vous interprétez aux côtés de Charles Roger Bourg, Sylvie Debrun, Morgane Fourcault, Thierry Gibault et un chien qui sera toujours le même tous les soirs parce que j'ai pas beaucoup vu de chiens au théâtre.
Donc c'est très rare, il n'y en a pas beaucoup.
Il y en avait un dans Tailleur pour Dames.
Oui, qui s'appelait Galipette. Voilà. En hommage à Galipo, qui était l'acteur
fétiche de Fédo.
Oui. Voilà. Heureusement, il y a des gens qui ont un peu de culture ici.
Alors, bon. c'est notre caution.
Voilà. Et Galipette, mais dans le Marivaux, dans un des Marivaux, les fausses confidences qui avaient monté Besas aussi, il y avait un.
Et je crois qu'on vous avait fait une blague dans Tailleur pour Dames, parce qu'un jour, ils avaient changé le chien, ils avaient mis un chien monstrueux. Et vous étiez tombé nez à nez avec.
Je pense que c'est quand Jean-Paul Belmondo l'a joué.
Ah voilà, c'est ça. C'est quand Jean-Paul l'a joué.
Non, parce qu'il vaut mieux pas blaguer avec Pierre Arditi, il faut faire attention.
Belmondo. Ouais. Ouais. Ils avaient remplacé le tout petit chien par un chien monstrueux, il est tombé sur le chien.
Peut-on revenir à l'essence même de cette tournée? Oui, Lucas Snyder. Avec cette idée, encore une fois, de mise en scène. Je voudrais que nous en parlions un tout petit peu parce que nous avons lu le texte, mais à le lire, il y a beaucoup d'endroits. Alors oui, l'imaginaire fait son travail au théâtre, mais il y a beaucoup de didascalie aussi.
Oui, il y a une narration. Il y a une narration interne.
Donc, quels sont les effets de mise en scène auxquels nous aurons droit?
Pas des effets, c'est-à-dire que on a cherché avec Besas si cette narration, qui est donc une partie intégrante du livre, alors là, devait être dite, proférée à voix haute,
face publique, par le personnage, comme une lecture,
comme quelque chose qu'on raconte, ou si au contraire c'est quelque chose qui vient de son cerveau, qui est donc
une voix off,
qui est une voix qui n'est pas, enfin, qui est off, mais qui n'est pas off d'une certaine manière, et qu'on entend sur des actions qui n'ont pas l'air, qui sont décalées par rapport à ce qu'on entend. Et c'est la version qui a été choisie finalement parce qu'elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte.
Ça veut dire qu'on vous voit jouer sur scène
et qu'on
entend
votre voix.
On voit
faire des choses qui n'ont pas de rapport réel avec ce qu'on entend. Voilà, mais c'est d'autant plus troublant et puissant. Et sinon, c'est une sorte de commentaire, quoi. Alors il commente lui-même, c'est un commentaire et pas quelque chose qui se passe dans sa tête, ça devient de nouveau, c'est proféré à l'extérieur. Donc il a très très bien fait.
Et il y a beaucoup d'autodérision aussi, d'ironie.
Énormément, dans le texte, mais ça c'est contenu complètement. Quand il parle de sa femme et des volailles qu'elle ramène après s'être... ça, ou Charistéas avec le chien qui lui propose de faire un concours.
Non, puis il y a les deux.
Est-ce que vous ramassez Je vais vous poser une question délicate maintenant. Oui. Vous avez déjà ramassé? Quoi? Ah non, jamais. Non, c'est... je savais qu'il y avait un problème.
Et puis il y a le jeu aussi avec les fils au téléphone.
Alors les deux fils qu'on voit, jamais, Hugo et Nicolas.
Mais vous ne savez jamais sur lequel
on
vous
tombez. On ne sait jamais, non, c'est Nicolas. Hugo est à côté de moi, il t'entend. Il ne peut jamais parler à ses fils qui sont d'ailleurs en réalité des êtres méprisables.
Bon, voilà. Oui, il ne les aime pas beaucoup.
Il les vomit parce qu'au fond, ils n'ont jamais attaché d'importance à cet enfant qu'il a perdu et qui est leur sœur. Et qu'ils ont complètement méprisé.
D'un autre mariage.
D'un autre mariage. Absolument.
Elle est issue du premier mariage.
Et donc elle était une quantité négligeable pour eux et ça.
Ils n'ont même pas voulu lire.
Ils n'ont même pas voulu lire
la lettre d'amour.
Longue lettre qu'elle avait écrite pour leur anniversaire et ça il leur ressort.
Beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour
et de réflexion
aussi. Oui, et puis réflexion aussi sur la vie, sur nos rapports dans la vie, les uns et les autres, notre rapport vis-à-vis de la vie. Voici l'humeur de Daniel Morin, messieurs dames.
France Inter, la bande originale, le best-of avec Nagui.
Aujourd'hui, mes amis, c'est un jour particulier pour la France en général. Et pour un ami plus spécialement, il y a 63 ans tout juste, le 3 février 1954, c'était le début de la terrible bataille de Dien Bien Phu.
Oh là 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 là.
Cet ami, il est là, il est présent aujourd'hui parmi nous. Ah ouais. On l'a entendu tout à l'heure, c'est le maréchal Ganache. Maréchal, bonjour.
Salutations.
Ça va?
Qu'est-ce que ça?
C'est l'anniversaire qui vous plombe?
Affirmatif. Quand comme moi, on a fait l'indo, on n'est jamais insensible à Dien Bien Phu.
C'était comment, Dien Bien Phu ?
C'était l'enfer. Pire que la bataille de Gang Bang Phoc. Bien pire.
Ça va, Maréchal ?
Non, c'est trop d'émotion.
Vous voulez un verre d'eau ?
Vous n'auriez pas plutôt du Poppers ?
Ah si, bien sûr. Nagui, s'il vous plaît.
Ça va pas, mais ça va pas.
Ah, merci, tenez.
Ah, ça va mieux.
Bon alors, Dien Bien Phu ?
Ah, il faisait chaud, il faisait moite. Avec mes hommes, on était planqués dans les bambous déguisés en koala.
Ah, bien vu.
Non, pas bien vu.
Pourquoi ?
Parce qu'en Indo, le koala, ça n'existe pas.
Ah oui, merde.
Comme vous dites. Taisez-vous !
Un peu de respect.
Taisez-vous. Au bout de 30 minutes, on s'est fait repérer par les hommes du terrible général Boboon. Un homme aussi vicieux que cruel, colérique et méchant.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, comme vous dites. À moi et mes hommes, il a fait subir les pires des outrages.
Quoi précisément ? Oh, Maréchal, faut pas vous mettre dans des états pareils. Vous voulez un verre d'eau ?
Vous n'auriez pas plutôt de la cocaïne ?
Ah bah si, bien sûr. Nagui, s'il vous plaît.
Oh, merde.
Merci, Nagui, tenez.
Ah, ça va mieux.
Tant mieux. Donc, Dien Bien Phu.
Ah oui, Dien Bien Phu. Comme l'infâme Boboon et ses hommes se sentaient seuls, ils nous ont obligés à porter des perruques, des talons aiguilles et des robes en lycra près du corps. Et ils nous ont enfermés dans une baraque qui leur servait de bordel.
Quelle horreur!
Ça, c'est sûr. Le lycra, ça me va pas du tout. Je suis tout boudiné, j'ai l'air d'une pauvre piète. Une horreur, comme vous dites.
Non, mais la vie au bordel, je veux dire.
Ah, bah non, ça l'est. Comme je n'étais pas au goût des viettes, on m'a mis au bar. En revanche, pour mes compagnons de guerre légionnaires, mieux gaulés, ça a été terrible. Une humiliation permanente et sauvage. La nuit, parfois... Je me réveille en entendant leurs cris qui déchirent la nuit tant qu'ils nous...
Oh, Maréchal, calmez-vous. Vous voulez un verre d'eau?
Vous n'auriez pas plutôt du crack?
Ah ben si, bien sûr. Nagui, s'il vous plaît. Merci, Nagui. Tenez.
J'en ai marre. Ça va mieux.
Donc, vous en êtes sorti comment?
Par miracle. Une opération commando est venue à notre secours. Opération menée par un général étrange, le général Arditi. Un homme au regard cruel, perçant, qui terrorisait tout le monde, jusqu'à ce que...
Jusqu'à ce que quoi ?
Jusqu'à ce que nos regards se croisent, Arditi et moi.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai eu le coup de foudre.
Vous êtes sûr ?
Eh bien, autant je ne me plaisais pas au général Boboon, autant Arditi a craqué pour moi. Il s'est approché du bar et il m'a dit « Je te veux ». Laisse-toi faire, avec moi tu seras heureuse. En plus, en cas de pépin, si jamais je meurs, ton futur est garanti. J'ai une super assurance vie. Ce à quoi j'ai répondu, une assurance vie pour un militaire, c'est rare. Il m'a aussitôt rassuré en répliquant du tac au tac. Oui, je sais, mais j'ai un cousin saltimbanque à Paris qui travaille à la MAF. Ah, les assurances, ça me rassure. Du coup, j'ai craqué et on a vécu 3 mois intenses.
Mais pourquoi ça s'est arrêté ?
Ah, sur le bateau qui nous ramenait en France. Concordia, il est tombé amoureux d'une femme.
Salope.
Ah, ça, oui.
Elle s'appelait comment ?
Cerise, de chez Groupama. Cette chiennasse a ruiné ma vie.
Merci, Maréchal, bon week-end.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Albert Algouet, Daniel Morin.
C'est horrible.
Pierre Arditi.
On a les dieux qu'on mérite.
Pierre Arditi est au théâtre de l'atelier. Mais vous êtes également. Oui. Vous serez à l'affiche du film Quelque chose a changé de Jacques Santamaria. Là, vous retrouvez votre douce Evelyne Bouygues. C'est
oui.
Vous allez le tourner ou vous l'avez déjà tourné ?
Non, ça, je vais le tourner. Et je vais parallèlement, probablement, tourner le prochain film de Valeria Bruni Tedeschi.
Et vous saurez quel personnage ?
Je serai un personnage.
Oh, ça va.
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire.
Chuchote,
je reçois le scénario tout à l'heure.
Ah, bon, d'accord. Vous avez dit ouais. Oui sans le lire.
Oui, il y a des gens auxquels on peut dire oui sans lire. Vous voyez ?
C'est beau.
Il y a des gens auxquels on peut dire non après avoir lu. Et des gens auxquels on peut dire oui sans lire. C'était.
Est-ce qu'il y a des gens à qui vous dites
par exemple, je n'ai.
Est-ce qu'il y a des gens à qui vous dites non sans avoir lu ? Parce que vous ne voulez pas travailler avec eux.
Oh, il doit y en avoir.
Non, je pense que je fais jamais ça. Parce que je me dis toujours qu'à un moment donné, non, je fais jamais ça. Non, je lis. Non, là,
humainement,
je lis.
Même pas humainement. C'est pas tant pour le script que pour la personne.
Il y a peut-être des gens que vous n'aimez pas.
Vous n'avez pas envie d'être dirigé par telle ou telle personne. C'est peut-être.
Écoutez,
on vous demande pas des noms. Hein.
Au théâtre, ça pourrait m'arriver peut-être, mais au cinéma, c'est pas pareil parce que au théâtre, c'est une vie commune qui est longue. Oui. Alors là, c'est pas commode, effectivement, mais. Non. Je prends la peine de lire quand même, parce que personne n'est monolithique. On peut avoir fait une série de choses qui, par exemple, ne m'intéresseraient pas, puis tout d'un coup,
je sais pas, mais il y a des tas d'exemples, je ne citerai personne, mais des cinéastes qui ont fait, par exemple, un cinéma très classique, très comme ça, puis qui, tout d'un coup, sur un film ou deux, il sort quelque chose d'eux qu'on n'avait pas imaginé ou pas fait. Par exemple, le film de Nicolas Bedos, qui est un très joli scénario, qui est un scénario assez noir, d'ailleurs, tout le monde pense, ah oui, alors c'est Nicolas Bedos, il va faire... Pas du tout. Et il va surprendre énormément dans le film, et sa copine est vachement bien. Et c'est une autre image qui est très troublante, très déroutante et très attachante, justement.
Voici le boulon de culture de Leïla Kadrouboudadi pour Pierre Arditi.
Pierre Arditi, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Mmh. Et on commence par un premier son pour vous.
Toujours attendu.
Heureusement que vous êtes revenu. Avec vous dans la maison, je me sentirai en sécurité.
Toujours convaincu.
Chaque fois que quelqu'un s'oppose à vous, il meurt.
Vous y êtes allé un peu fort, non ?
Oui.
Mais jamais pris au dépourvu.
Vous souhaitez commencer par quoi ? La visite de nos caves ?
Non, si vous le permettez, je préférerais commencer par humer vos vignes.
Voilà, c'est le teaser de la série Le sang de la vigne.
Je cherchais.
Oui, si vous ne reconnaissiez pas. C'est une série qui met en scène les investigations menées par un éminent œnologue, Benjamin Lebel, que vous incarnez. C'est une série diffusée sur France 3 qui a réuni 4 millions de téléspectateurs à chaque épisode. C'est un carton en termes d'audience.
Oui, enfin entre 3,5 et 4,2. Oui, 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 c'est un très, 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 très
belle audience. C'est un carton, absolument, oui, oui. Entre 3,5 et 4.
Oui, très bien. Oui, oui.
Et la série vient d'être arrêtée malgré le succès.
Oui.
Comment ça se fait ? Moi, je trouve ça fou.
Bah, écoutez, ça, faut demander ça à la direction de la chaîne. Hein. Moi, c'est pas, je suis pas décisionnaire.
Est-ce que vous êtes étonné ?
Je pense que on en a fait 22 épisodes. Et c'est très bien. Ça fait très, les dernières audiences sont très fortes.
Oui.
Je pense qu'ils ont envie de renouveler.
Ouais.
Voilà, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit et je peux le comprendre tout à fait. Alors ça paraît toujours un peu étrange.
Oui, quand quelque chose marche très bien.
Marche comme ça, pourquoi l'arrêter ?
C'est fou.
Il n'y a pas vraiment de raison. Donc c'est vrai que honnêtement, si je vous disais que ça ne me fait rien, je mentirais. Mmh. J'ai un petit pincement au cœur parce que j'aimais bien cette série qui est un peu atypique. J'aime bien le personnage, je m'amuse avec ça, j'aime bien le monde du vin. Voilà. Après, la chaîne décide autrement. C'est pas un divorce, hein, on fait autre chose. Le capitaine Marlowe fait la comédie que je vais tourner cet été, c'est pour eux. Donc il y a pas un côté bon, ça va, il est trop vieux, on n'en veut plus, on va passer à autre chose. C'est pas ça. Ils ont envie de renouveler. C'est leur droit le plus strict. Voilà. Alors c'est toujours un peu étrange en même temps. Bon, on fera autre chose.
Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est une belle série.
Oui, c'est bien.
Voyage,
oui, j'en aurais bien fait comme ça, 2-3 ans de plus. Oui, bien sûr.
Le cadre était sublime. On va dans toutes les régions de France. On visite en fait les vignobles.
On emmène les gens en vacances dans tous les sens du terme. Voilà. C'est bien. Ouais.
Donc on appelle de nos voeux une nouvelle série comme ça où vous pourriez incarner.
Bah alors vous envoyez des mots. Envoyez-leur des mots.
D'accord, on va faire ça.
Directement à Anne Holmes.
D'accord.
Holmes, pardon.
Holmes, c'est Sherlock.
C'est pas loin de Benjamin Lebel.
C'est de la fiction
quand même.
Sur la 3, mais elle est brillante en plus.
Ah oui, c'est ce qui marche le plus.
Ah oui, c'est un talent incroyable.
C'est la fiction, absolument. C'est brillant.
On poursuit avec un autre son pour vous.
15 jours avant la sortie, Suzanne Beckett a dit à Sam, tu devrais aller voir peut-être Lindon tout de même avant qu'il sorte, le livre, ce serait plus gentil. Sam est venu voir et nous avons parlé, je n'ai plus le moindre souvenir de notre conversation, nous étions sans doute aussi intimidés l'un que l'autre, et il est rentré chez lui et avec une figure très sombre, et Suzanne lui a dit, tu as vu Lindon ? Oui. Et tu ne l'as pas trouvé sympathique ? Et Sam m'a dit, si, justement, quand je pense que ce type va faire faillite à cause de moi.
C'est Jérôme Lindon, l'éditeur, parlant de sa première rencontre avec Samuel Beckett, un auteur très secret. Et un jour, Pierre Arditi, vous avez respecté, vous aussi, ce côté secret de Beckett, car dans une interview, vous racontez que vous l'avez croisé du côté de Montparnasse, sans oser le saluer. C'était impossible.
Non, je suis passé. Il y a eu deux rencontres comme ça. Alors Beckett, oui, cette espèce de silhouette, de ce profil d'aigle, il a une tête absolument magnifique. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est à l'époque où je devais jouer au théâtre de Lutèce, qui aujourd'hui n'existe plus, qui est un théâtre privé qui appartenait à Lucie Germain, qui était femme de banquier et qui a dilapidé une partie de la fortune de son mari. Dans ce théâtre absolument magnifique, c'est un théâtre privé
qui a
un palmarès
qu'aucune
maison de la culture ne peut revendiquer aujourd'hui. Elle a créé à pratiquement tout. Beckett, Ionesco, Arabal, Pinget, Mauriac, mm-hmm. tout, absolument.
Pardon, vous disiez qu'il y avait deux rencontres comme ça que vous avez
alors,
eues.
Alors, ça, et Beckett, s'est croisé. Alors, j'ai regardé comme ça. Il était très grand, très long, comme ça. Un aigle.
Parce qu'avant d'évoquer l'autre
rencontre...
J'ai pas osé.
Et l'autre, c'est Sartre et Beauvoir, rue du Dragon. Mm-hmm. Voilà, où je marchais comme ça. Ils arrivent en sens inverse. Et je suis resté comme une espèce de nouille. Je lui dirais bien quelque chose, et puis je ne savais pas quoi dire. J'étais fasciné. Quoi.
Et qu'auriez-vous dit, pour revenir à Beckett,
Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à cette époque-là? Si je n'ai pas osé lui parler, c'est que je ne savais pas quoi dire. Et pourtant, j'étais déjà très attiré et fasciné par ce qu'il écrivait, et cette écriture extrêmement minimaliste qui dénotait par rapport à tout un autre théâtre qui était un théâtre verbeux, parfois d'ailleurs de très belle qualité. Moi, à l'époque, je jouais au Di Bertti, alors c'était vraiment... C'est les extrêmes.
Les extrêmes,
j'avais travaillé là un texte de lui qui s'appelle « La dernière bande », et qui est un type qui parle à un magnétophone comme ça et qui bouffe des bananes. Et ça m'avait absolument fasciné. Je lui aurais dit, écoutez, monsieur, j'ai lu ce que vous écrivez, je trouve ça magnifique, j'aimerais tellement jouer ça un jour, voilà, sans doute, probablement, j'aurais dit un truc de groupie, quoi. Bon, j'ai pas osé. Puis,
j'aime beaucoup ce que vous faites, en fait.
Oui, j'aurais dû dire quelque...
Et Alain...
Oui, je regrette, on regrette toujours de pas avoir eu...
Et Sartre aussi, et Simone de Beauvoir, j'ai l'impression aussi que vous regrettez.
Oui, parce que ça fait partie de... il y a des gens qui font partie de votre vie, quoi qu'il arrive, en bien, quelquefois en mal, d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas ni pour Beckett, ni pour Sartre-Beauvoir. On aimerait s'arrêter deux secondes là-dessus, hein, en disant, on boit un café, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de... Voilà, bon, on voudrait pouvoir partager avec des personnalités aussi puissantes.
Ouais. Et pour finir, un cadeau pour vous, une autre bande dessinée, Pierre Arditi, c'est le rugby, dans les éditions La Petite BDTech des Savoirs, c'est signé Olivier Bras et Guillaume Bouzard. Donc c'est l'occasion de se replonger dans la genèse de ce sport qui aurait débuté en 1823 ou un jour lors d'un match de foot. Un des joueurs, un certain William Webb Ellis, a enfreint les règles. Il a pris le ballon à la main et on s'est dit, tiens, ben pourquoi pas inventer une autre discipline. Et donc dans cette collection, une notion est expliquée en dessin, en bande dessinée. C'est vraiment très très riche et il y a pas mal d'anecdotes qui à mon avis vous raviront. Une façon de, là aussi, de connaître un peu mieux cette discipline.
Je tombe sur la tronche de Chabal.
Vous aimez le rugby?
J'aime bien le rugby,
c'est vrai.
Je préfère la mentalité du rugby à celle du foot, enfin de ce qui est devenu le foot.
Ouais. Y compris le dictionnaire amoureux du rugby de Herrero qui est formidable.
Absolument,
on l'a
c'est un autre mode de vie. Quoique ça commence à gagner, mais enfin quand même, ça reste encore. Moi, ce qui me fascine au rugby, c'est que les mecs, c'est des baraques, quoi. Et souvent, les arbitres de rugby sont des mecs assez fins.
Ils le respectent
comme ça,
mais ils le respectent.
Quand il monte à une montagne, qu'il a fait une faute comme ça, le mec ne dit pas un mot, rien, il repart dans ça, il s'excuse et puis il se tire. Au foot, dès qu'il y a un truc comme ça, le mec.
Donc j'imagine que samedi, demain après-midi, vous serez devant France-Angleterre, évidemment.
Non, demain après-midi, je serai en train de répéter. Si ça ne vous ennuie pas trop, parce que si vous voulez que je joue le cas Snejder, il faut quand même que je bosse un peu. Alors je ferai...
Les répétitions, vous ne les faites pas in situ, c'est-à-dire le soir, pour être dans le même rythme de vie
et Non, vous savez que ça n'a pas l'air, mais c'est un vrai boulot. Hein.
Non, mais je pose la question.
D'autant plus que là, on est dans les derniers lacets, donc c'est du genre midi-minuit. Hein. Voilà.
Ah, carrément.
Ah oui, carrément, oui.
12 heures par jour.
Ah oui, sûrement. Et ça sera même encore probablement un petit peu plus, parce qu'il y a un petit travail personnel. Quand on sort de répétition, on se dit, tiens, il faut que je revienne. Donc on regarde le texte, on revoit des trucs. Oui. Il faut travailler beaucoup avant pour ne pas avoir l'air de travailler pendant.
C'est ça.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
L'Aquamonie, c'est Vincent Delerme pour vous dans la bande originale.
C'est un aquaboniste. Un faiseur de plaisantristes qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons, à quoi bon. « C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon ? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon ? Un aquaboniste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons. Richard Lornac.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Des excuses à présenter, j'imagine.
Désolé déjà pour les fans du comédien Pierre Arditi qui ont découvert ce matin que pour préparer son rôle, il n'avait même pas lu le livre dont la pièce est tirée. À croire que Leïla, pour une fois, avait raison hein, quand elle disait que Pierre était devenu une sacrée feignasse. Désolé pour nos auditeurs, tous nos auditeurs, les trois auditeurs jeunes qui nous écoutent et qui ont été quelque peu déprimés par l'ambiance mouroir, sang d'urinaire et art de vivre de l'émission de ce matin. Franchement, je comprends pas. Et puis, de toute façon, hein, bande de cons, vous allez crever vous aussi. Désolé pour Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Eh oui, déjà, à l'époque, il ne savait pas quoi vous dire, Pierre Arditi, mais pas de regret, les gars, aujourd'hui encore, il a pas les mots.
C'est moche. Il laisse rien passer.
Ah, on est peu de choses.
Non, mais il faut pas compter sur lui pour vous aider. Non, c'est pas possible.
Bien compris.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain, même heure, même adresse, sur Inter, avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Grand Corps Malade, Pablo Paoli, André Dussolier, José Garcia et en live, Féfé et la famille Souchon. En attendant, c'est l'heure de Carnet de campagne de Philippe Bertrand.